L'histoire de France, racontée par Gérard Inger.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des rapports entre le judaïsme et le christianisme qui, de plus en plus, en Gaule, dans les années 300, prend une place très importante parce que l'empereur lui-même, Constantin, autorise en 313, par l'édit de Milan, le christianisme comme une religion permise. Et lui-même, sans se convertir, favorisera le christianisme. Or, christianisme et judaïsme, à l'époque, sont en concurrence. Les juifs pratiquent, à l'époque, le prosélytisme, sans le vouloir ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui sont des craignants Dieu, qui fréquentent les synagogues, qui croient en un Dieu unique, qui ne se convertissent pas tous au judaïsme, mais qui sont proches. Et donc les chrétiens, eux aussi, veulent conquérir des âmes et se tournent vers ces craignants Dieu. Et là, la concurrence est de plus en plus sévère et les chrétiens vont s'appuyer sur l'empereur romain, Constantin, puis ses des successeurs. Ils vont élaborer des théories qui vont être très nuisible aux juifs jusque presque aujourd'hui, puisque il a fallu attendre 1945 pour voir le christianisme redécouvrir véritablement ses racines juives. Mais à partir du 4e siècle, on va avoir un christianisme hostile aux juifs, et peu à peu, les pères de l'Église, qu'il s'agisse de Saint Jérôme, de Saint Jean Chrysostome et d'une autre manière de Saint Augustin, vont élaborer des théories très hostiles aux Juifs. Ils vont déclarer que le peuple juif est un peuple déicide, que c'est lui qui a tué Jésus, que c'est un peuple maudit en raison de ce crime de déicide et qu'il est condamné à errer par toute la terre sans trouver le repos ni une patrie, et que le judaïsme, de toute façon, est une religion desséchée, sans âme. Saint Augustin a dit qu'il doit rester un peuple témoin de sa déchéance, puisqu'il refuse de reconnaître la divinité du Christ. Tout cela va entraîner progressivement ce qu'on appelle l'enseignement du mépris, et qu'a très bien montré Jules Isaac dans les années 1950-1960, et qui a aidé à faire prendre conscience d'ailleurs de l'hostilité du christianisme, ce qui l'a amené à changer de position. Mais à l'époque, donc dans les années 300, 400, 500, à l'époque de Clovis pour simplifier, eh bien le christianisme est vraiment très hostile aux juifs. Alors est-ce que ça change quelque chose en Gaule? Au début, non. Au début, non, parce que la population voit pas très bien la différence d'abord entre juifs et chrétiens, et puis ensuite elle considère que chacun, ma foi, peut pratiquer la religion qu'il veut, et il y a de nombreux cultes païens qui existent encore en Gaule à ce moment-là. Les rois francs qui, peu à peu, étendent leur domination sur la Gaule, se convertissent au catholicisme. Le baptême de Clovis date de 496. Mais ça ne change pas grand-chose à l'époque au sort des Juifs, qui continuent à vivre tranquillement, bien que des conciles sans arrêt, des conciles d'évêques gaulois, réunis à Vannes, à Mâcon, à Orléans, à Lyon, prononcent à chaque fois des interdictions contre les Juifs. Interdiction de manger avec des évêques ou des curés. Interdiction de posséder des esclaves chrétiens. Interdiction de certaines fonctions publiques qu'ils recommandent donc au roi. Mais comme ces règles sont recommandées à chaque fois dans les différents conciles qui se suivent au 5e siècle, c'est peut-être la preuve que tout ça n'était pas très respecté et que la population, elle, n'était pas hostile aux juifs. On l'a vu d'ailleurs à la fin du VIe siècle, parce que le roi Chilpéric Ier avait fait enfermer un de ses conseillers qui s'appelait Priscus, qui était juif et qu'il voulait à tout prix convertir au christianisme, mais la foule l'a délivré et a puni ses agresseurs en les lapidant et les lynchant. Donc on s'aperçoit que les gens n'étaient pas du tout hostiles aux juifs à l'époque, et que ce n'est que progressivement qu'on verra apparaître cette hostilité. Alors on parle du roi Dagobert, vous savez, le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. On dit qu'il a expulsé en 629, qu'il a expulsé les juifs. Bien, non, probablement pas. On n'a pas de vraies traces de cela. Et donc, les juifs vont continuer leur vie dans des époques très troublées, hein, c'est l'époque des rois fainéants, jusqu'à Charlemagne, qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on évoquera la prochaine fois.
Le bon roi Dagobert avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, votre majesté est mal culottée.
C'est vrai,
lui dit le roi,
je vais la remettre à l'endroit.
Le bon roi Dagobert chassait dans la plaine d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée.
C'est vrai,
lui dit le roi,
lapin courait après moi.
Le bon roi Dagobert voulait s'embarquer sur la mer. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, votre majesté se fera noyer.
C'est vrai,
lui dit le roi,
on pourra crier le roi boit.
Le bon roi Dagobert mangeait en bouton du dessert. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, vous êtes gourmand, ne mangez pas tant.
C'est vrai,
lui dit le roi,
je ne le suis pas tant que toi.
Le bon roi Dagobert avait un grand sabre de fer. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, votre majesté pourrait se blesser.
C'est vrai,
lui dit le roi,
qu'on me donne le sabre de bois.
Le bon roi Dagobert fut mettre son bel habit vert. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, votre habit paré au cou des percées.
C'est vrai,
lui dit le roi,
le tien est bon, prête-le-moi.
Le bon roi Dagobert faisait peu sa barbe en hiver. Le grand Saint-Éloi lui dit:
oh mon roi, il faut du savon pour votre menton.
C'est vrai,
lui dit le roi,
as-tu de sous, prête-les-moi.
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire de France raconté par Gérard Ringer la semaine prochaine.